magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Frustration, malentendu, violence ouverte ou larvée, incompréhension successive. Les relations des parents avec leurs enfants sont parfois difficiles. De nombreux parents d'ailleurs trouvent leur enfant insupportable, n'arrivent pas à s'en sortir, ce qui entraîne des conflits incessants. Et des études scientifiques sur le cerveau montrent que la qualité des relations entre parents et enfants sont en fait cruciales pour leur développement. Toute forme de maltraitance, de violence même apparemment anodine, peut perturber leur développement, influer sur leur capacité intellectuelle, sur leur futur comportement affectif, notamment leur capacité à surmonter le stress et à vivre leurs émotions. Dès lors, comment repenser l'éducation des enfants pour leur permettre de devenir un jour des adultes libres et heureux? Comment améliorer les relations entre parents et enfants? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Catherine Guéguen, qui est pédiatre à l'Institut franco-britannique à Levallois-Perret. Elle est spécialisée dans le soutien à la parentalité. Elle vient de publier pour Une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. C'est un livre qui paraît chez Robert Laffont. Dans cette émission, on aura également au téléphone Ismaane Soukena Diop-Barry, qui est psychologue clinicienne à Conakry, en Guinée-Conakry. Et on terminera en parlant d'un hôpital au Lesotho. Docteur Catherine Guéguen, bonjour.
Bonjour.
Il y a une phrase que vous entendez souvent en consultation, « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, ils sont insupportables, comment faire ?» Ce sont des parents qui parlent de leurs enfants.
Oui, ça c'est quotidien que j'entends cette phrase-là. Alors, généralement c'est avec des petits, parce qu'en fait, les petits, eux, ils n'ont aucun filtre. Ils expriment leurs émotions. Et ils sont comme nous, nous adultes, on est traversés par des émotions agréables et des émotions désagréables. Mais et les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est en colère, il est extrêmement en colère. Quand il est triste, il est extrêmement triste. Quand il est angoissé, qu'il a peur, il a très peur. Et donc, il exprime, lui. Et pour lui, c'est ni bien ni mal. Il exprime ses émotions désagréables. Et les parents, eux, ils ne veulent pas entendre que l'enfant est en colère, ils ne veulent pas entendre qu'il a peur, qu'il est angoissé. Et donc, ils disent à leur enfant, mais arrête ton cinéma, arrête tes caprices.
C'est ça, c'est le mot caprice.
Ouais.
Je voudrais vous faire part des messages qu'on a reçus sur Facebook pendant tout le week-end. Les auditeurs ont beaucoup échangé sur cette question-là, ça leur parle manifestement. Il y a Abdoul qui dit, il faut avoir l'air de menacer, de punir, montrer souvent sa colère pour bien éduquer l'enfant africain. Il y a Ibou qui dit, des fois il faut taper, c'est pas méchant, on ne peut passer tout son temps à parler, à parler, à parler. Puis d'autres avec des avis vraiment totalement différents. Myriam qui dit, ne pas adopter des comportements avec les enfants qu'on n'aimerait pas se voir infliger à nous adultes, je n'aimerais pas du tout qu'on me donne une claque ou une fessée, ni qu'on me menace, et encore moins me punir, tout ça au nom de l'éducation. Et elle dit facile à dire, moins facile à faire. Et il y a Carfa qui nous dit, moi je suis toujours stressée, je me sens mal à l'aise quand je suis avec les autres, j'ai tendance à rester souvent seule pour être heureux. Dans mon enfance, mes parents m'interdisaient de sortir en me menaçant, j'avais de la peine à m'approcher d'eux car ils me faisaient peur. Je ne pouvais même pas dire ce que j'aimais, j'ai 20 ans et j'ai envie de recommencer mon enfance, d'être solidaire de mes amis. Et il dit, évitons les punitions, la sévérité, la menace avec les enfants, ça correspond à ce que vous entendez régulièrement dans
J'entends ça tout le temps. Pourquoi ? Parce que on sait qu'à l'heure actuelle, ça c'est les derniers rapports de l'UNESCO, dans la quasi majorité des pays, donc dans le monde entier, il y a des rapports de force avec les enfants. Les adultes utilisent des rapports d'humiliation, de soumission avec l'enfant, parce que tout le monde croit qu'il faut dresser l'enfant. Et moi, je pense, pourquoi ? Ben parce que le petit, lui, c'est une boule d'énergie. Lui, il fait que ce qu'il veut. Donc, pour les adultes, ils veulent le cadrer, lui donner des limites. Alors, je ne suis pas du tout pour une éducation laxiste. Je pense qu'il faut...
Mais ça, justement, ce que vous dites, ça ne fait pas des enfants rois, après ?
Du tout, du tout. Moi, je suis pour qu'on transmette des valeurs à l'enfant, qu'on lui donne un cadre, des limites. Mais ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il faut le faire avec patience, empathie et douceur. Empathie, ça veut dire quoi ? C'est comprendre les émotions de l'enfant, les ressentir, ça c'est extrêmement important.
On reviendra sur l'empathie parce que vous y insistez beaucoup et sur comment faire. Oui. Vous dites aussi dès le début de cet ouvrage que finalement la relation à l'enfant ne va pas du tout de soi. La première déception de la maman d'ailleurs et du papa, c'est le premier mois de la vie du bébé qui est dur.
Oui, alors c'est extrêmement dur d'avoir un tout petit parce que l'enfant lui pleure. Dès qu'il se sent pas bien, son seul moyen d'expression c'est de pleurer. Et il pleure pour exprimer des émotions. Ça veut dire qu'il est stressé, il est en colère, il a besoin d'être pris dans les bras, d'être changé. Et donc, le parent est dérouté parce que le parent, il voudrait avoir un enfant pour lui qu'il aille bien, entre guillemets. Mais aller bien, ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas ses besoins.
Le parent est dérouté mais fatigué aussi, il y a aussi ça qui se rajoute.
Alors, généralement ils sont épuisés.
Même pas fatigués,
parce que le petit, il réclame à manger toutes les 3 heures, nuit et jour. Et donc, quand on est fatigué, stressé, eh bien, on n'a plus de patience avec l'enfant.
Et vous allez nous dire tout au long de cette émission comment faire justement pour avoir de la patience et avoir une bonne relation avec ses enfants. Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, on essaye de voir comment rendre les relations entre parents et enfants plus harmonieuses. Alors, Jeanne Tchirkefos est allée rencontrer Claire, 37 ans, qui s'occupe à plein temps de ses deux fils de 2 ans et 4 ans. Elle suit cette année son second atelier Faber et Malzich, dédié aux rivalités au sein de la fratrie, organisé par Marie-Florence Astoin, rédactrice du magazine Grandir Autrement, membre du réseau des animateurs en communication bienveillante. Un mot sur Fabrice et Malzich, ce sont deux mères américaines qui ont participé pendant une dizaine d'années au groupe d'entraide aux parents organisé par un psychologue, elles en ont tiré plusieurs livres.
Avant d'avoir des enfants, je pense que j'étais pas mal imprégnée par ce que je voyais autour de moi. Une éducation hyper à l'ancienne, assez restrictive. Et en fait, j'avais l'impression que c'était le meilleur moyen pour que les enfants fassent ce qu'il faut. Et du coup, je pense que l'une des grosses difficultés, ça a été de faire le tri entre ce que, avec mon mari, nous avons reçu comme éducation et ce qu'on aimerait mettre en place pour nos enfants sans avoir vraiment de méthode au moment où les enfants étaient déjà là. Avec le premier enfant, on avait le souhait avec mon mari d'essayer d'être bienveillant, mais on n'avait pas du tout les outils. Et en même temps, vu que c'était le premier, je pense que, comme beaucoup de parents, on s'est retrouvés assez désemparés et submergés par toutes ces nouveautés. Et quand le deuxième est né, on avait quand même commencé à creuser avec les livres d'Isabelle Filioza pour essayer de trouver des supports à ce qu'on avait dans le cœur mais qu'on n'arrivait pas à concrètement mettre en application.
Avant, ça criait beaucoup à la maison ?
Terriblement. Avant, oui, ça criait énormément, en particulier en fin de journée parce que je suis en congé parental et du coup j'ai les enfants à la maison toute la journée. En fin de journée, mon taux de patience était réduit à peau de chagrin. Si ça criait pas, c'était des menaces du style « si tu viens pas tout de suite déjeuner, tant pis, pas de déjeuner pour toi, et puis tu feras la sieste et tu me déjeuneras plus tard. »
Et ça marchait ?
Au bout d'un moment, oui, mais en fait, c'était épuisant. Et je me sentais pas paisible par rapport à ma façon de faire.
Et en quoi c'est blessant de se mettre dans une colère noire ?
Je pense que c'est parce que je perds le contrôle, entre guillemets, dans le sens où j'écoute plus du tout les sentiments de mes enfants. Et en même temps, je tiens pas compte non plus des miens. Et en fait, du coup, mes interrogations, c'est savoir quand est-ce qu'il faut lâcher. J'ai l'impression qu'il y a des questions de pouvoir derrière. J'aimerais bien qu'on soit vraiment dans des relations équilibrées.
Qu'est-ce qui a changé dans votre attitude avec vos enfants ?
C'est d'essayer de mettre en mots les émotions qui les habitent. Il faut commencer par accueillir les sentiments. C'est pas forcément des choses qu'on a appris dans l'enfance nous-mêmes. Et du coup, il faut déjà être aussi capable de mettre en mots nous nos propres émotions. Quand un enfant est en colère contre soi ou qu'on est obligé de le frustrer parce qu'on peut pas accéder à toutes ses demandes, etc., c'est pas simple de se mettre à son niveau, en fait. Bien souvent, quand on félicite son enfant, on se contente de dire « Ah bah c'est super, bravo, génial, fantastique, etc. » Et on va pas plus loin. Pour les enfants, c'est pas suffisant. En ce moment, mon fils aîné aime beaucoup faire des constructions avec des gros Legos. Et du coup, ça peut être « Je vois que tu as utilisé plusieurs couleurs, tu as fait des ouvertures, etc. » Spontanément, ça semble assez impersonnel pour une maman. Et en fait, au final, j'ai remarqué que en particulier mon fils aîné, quelques temps après, il s'approprie les mots que j'ai utilisés pour les qualités. Une autre technique, ça peut être aussi de faire sur le mode imaginaire. Par exemple, pour faire ranger des Legos, de dire, comme si c'était le Lego qui parlait, « Ah, je me sens tout seul, je veux retourner dans mon baril, etc. » Bon, parfois, mon fils aîné me regarde comme une tarée. Non, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Et puis, par moments, il a envie de rentrer dans le jeu. Et ça fonctionne pas mal.
Qu'apportent les ateliers par rapport à la simple lecture des livres ?
Du concret. Puis aussi des rencontres avec d'autres parents, un peu démunis, parce que ça ne s'apprend pas avant. Ça m'aide beaucoup d'avoir d'autres personnes, d'autres femmes, qui font le même genre de choix. Et puis, moi, ça m'aide en tout cas à me faire confiance et à me dire, ma famille, elle est unique.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous essayons de voir comment améliorer les relations parents-enfants avec le docteur Catherine Guéguen qui a publié Pour une enfance heureuse. C'est un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont. J'aimerais bien, docteur Catherine Guéguen, votre réaction à ce témoignage de Claire. Elle dit beaucoup de choses. D'abord, toute la question de la patience et de ne pas s'énerver.
Tout à fait. Je pense qu'elle résume parfaitement l'état des lieux des parents à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés, débordés. Et ils sentent bien au fond d'eux qu'ils n'ont pas envie de reproduire l'éducation qu'ils ont reçue. Par contre, ils ne savent pas très bien comment faire. Et je pense qu'elle a pris le bon chemin, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'entraide.
Pour moi, il ne faut pas rester seul.
Il ne faut jamais rester seul. Dès qu'on sent qu'on s'énerve avec l'enfant, on ne prend pas le bon chemin. Parce qu'on le sait intuitivement au fond de soi que ça ne va pas pour l'enfant. Et dans ce cas-là, moi, à mon avis, il faut d'abord en parler autour de soi, si on a une très bonne amie, un très bon ami, à sa famille, si elle est compréhensive. Moi, je pense que déjà ça peut aider énormément. Après, il peut y avoir dans des villages, dans des villes, des groupes de parents, où on se retrouve ensemble, où on parle de ça. Donc, je pense que parler de ces difficultés, ça aide à trouver des solutions ensemble. Ça, c'est la première chose.
On dit... Souvent, on entend souvent les petits bébés qui pleurent, les petits enfants, on dit attention, il fait des caprices, il faut tenir le coup. Or, vous dites finalement le comportement des enfants, là-dessus, est beaucoup plus dû à l'immaturité de leur cerveau qu'à autre chose.
Alors, ça, c'est extrêmement important. Nous, quand nous sommes traversés par des émotions, nous adultes, nous avons toute une partie du cerveau qui est au niveau derrière le front, qui nous permet de prendre du recul, d'analyser la situation, de se dire ce que je vis là, c'est quand même pas si grave. Et donc, on se calme soi-même et on trouve des solutions. Le petit enfant n'a pas du tout son cerveau mature et donc lui, il ne sait pas gérer ses émotions. Il n'est pas capable de prendre du recul, d'analyser la situation, de trouver ses solutions. Et ça, ce sont des chercheurs qui ont trouvé ça, c'est qu'à chaque fois qu'on apaise l'enfant, qu'on le rassure, qu'on le sécurise, qu'on le console, on fait maturer son cerveau, on fait maturer toute la partie du cerveau qui va lui permettre plus tard de gérer ses émotions. Alors que si on lui dit « arrête tes caprices, arrête ton cinéma », eh bien, au contraire, on empêche son cerveau de maturer. Et donc, ça, c'est extrêmement important.
Et qu'est-ce que ça donnera à l'âge adulte ? Justement, il n'aura plus les barrières qu'il faut pour ne pas s'énerver. Il s'énervera dans les situations que vous nous avez décrites tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit bien autour de nous qu'il y a plein d'adultes qui sont extrêmement anxieux, qui sont dépressifs, qui se mettent dans des colères noires. Eh bien, à mon avis, c'est très souvent parce que justement, dans leur enfance, ils n'ont pas rencontré d'adultes qui les comprennent et qui leur permettent justement de gérer leurs émotions et de faire maturer leur cerveau. Et en plus, ce qui est très important, c'est que quand on a des adultes bienveillants autour de soi, on fait maturer le cerveau de façon globale, c'est-à-dire aussi bien au niveau affectif. Au niveau affectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être dans la capacité d'accueillir ses émotions, ses sentiments, d'avoir des bonnes capacités relationnelles. Et au niveau intellectuel aussi, c'est-à-dire au niveau mémoire, apprentissage et au niveau de notre pensée. Donc, être bienveillant, ça fait maturer l'être humain dans le sens où il va s'épanouir globalement. Donc, c'est extrêmement important. Ce sont les dernières recherches là sur le cerveau.
Justement, ce que vous dites, ça a été prouvé par des études scientifiques. On a vu ce qui se passait dans le cerveau.
Tout à fait. Et ça,
expliquez-nous alors de façon assez simple, parce que c'est vrai que c'est à la fois c'est plusieurs chapitres de votre livre. Oui. C'est quelque chose d'assez compliqué sur ce qui se passe dans le cerveau, mais on a prouvé.
Alors, à l'heure actuelle, il y a des chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur ces questions-là et qui ont montré que tout ce que va vivre l'enfant dans ses premières années, parce que c'est la période où l'enfant a le cerveau le plus malléable et le plus fragile, le plus vulnérable, eh bien, vont agir directement sur ses molécules cérébrales, sur les circuits cérébraux, sur les cellules cérébrales, sur les structures cérébrales et même sur l'expression de certains gènes. Donc, à l'heure actuelle, on sait que tout ce que va vivre l'enfant a un impact extrêmement profond sur son cerveau et va modeler son devenir.
C'est-à-dire qu'effectivement, le stress, finalement, l'éducation par la peur, c'est nocif pour l'enfant. C'est ça ce qui est prouvé.
C'est extrêmement nocif pour l'enfant. Et à l'heure actuelle, on sait que... Alors, je ne parle pas du petit stress, hein, mais je parle d'un stress répété, important, quotidien, eh bien, peut détruire les neurones dans des parties essentielles du cerveau. Donc, il faut vraiment abolir le stress chez l'enfant. Il faut l'abolir aussi chez l'adulte, hein, parce que c'est mauvais pour tout le monde, mais sur l'enfant qui a un cerveau extrêmement fragile, c'est extrêmement nocif pour l'enfant.
Juste une phrase là sur Facebook de Johnny qui révèle bien la dualité de ce qu'on pense sur cette question d'éducation des enfants. Il dit « Je ne pense pas qu'on puisse éduquer sans punir. » Puis juste après, il dit « Moi perso, hein, j'ai grandi dans un environnement où le bâton était la norme et franchement, c'est pas aussi utile que ça. »
Oui. je ris parce que la plupart des enfants à l'heure actuelle sont élevés comme ça. C'est-à-dire que c'est des habitudes culturelles. Les parents, ils croient...
Quel que soit le pays, hein, c'est ce que vous
dites. Quel que soit le pays, dans tous les pays du monde, les parents, ils croient bien faire. Moi, je ne porte aucun jugement négatif sur les parents. Ils pensent que c'est comme ça qu'il faut élever les enfants. À l'heure actuelle, il y a de très, très nombreuses études qui montrent que les claques, les fessées chez l'enfant, qu'est-ce qu'ils produisent chez l'enfant? Eh bien, ils produisent de l'anxiété, des dépressions et de l'agressivité. Donc, si on veut avoir un enfant violent, on l'agresse, on crie dessus, on l'humilie en parole en lui disant « t'es nul, t'es minable, t'es insupportable, je ferai jamais rien de bien avec toi
». Il va l'intégrer.
Voilà. Mmh. On lui donne des fessées, des claques. Eh bien, il va reproduire ça. C'est-à-dire qu'il va devenir violent, il va devenir agressif, il va devenir anxieux, il va devenir déprimé et il va perdre confiance en lui-même.
Donc la violence, ça ne marche pas, c'est prouvé par des études. Ce qui est aussi prouvé par des études, c'est que finalement, des relations agréables déclenchent de l'ocytocine, une hormone qui est très intéressante.
Oui, l'ocytocine, c'est une hormone absolument extraordinaire. C'est l'hormone qui nous permet de savoir aimer, de pouvoir aimer et d'avoir de l'empathie, qui nous permet aussi de pouvoir détecter les expressions chez l'autre et les expressions du visage et des yeux, qui nous permet d'être bienveillant, d'être altruiste, qui nous permet d'avoir confiance en l'autre et qui nous donne du bien-être. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sécrète de l'ocytocine, excusez-moi, on se sent bien. Donc c'est une hormone extrêmement importante. Et comment elle est sécrétée, cette hormone, dès qu'on a des relations agréables? Un regard bienveillant peut nous faire sécréter de l'ocytocine, des relations agréables, c'est-à-dire avec quelqu'un de bienveillant, des câlins, c'est-à-dire que dès qu'on câline l'enfant, dès qu'on le caresse, ça fait sécréter l'ocytocine. Donc tout ça, c'est extrêmement important.
On a bien vu hein, dans la première partie de cette émission pourquoi c'était important de bien traiter un enfant, hein, quel était l'impact de la violence sur le développement du cerveau. Vous venez de nous dire aussi quel était l'impact d'une bonne relation. Donc on va voir dans la seconde partie de cette émission qu'est-ce qu'il faut faire de façon très concrète pour reprendre l'exemple de Claire tout à l'heure. D'abord, on fait comment pour ne pas s'énerver? Alors, vous donnez comme conseil là-dessus.
Pour ne pas s'énerver, il faut d'abord ne pas avoir de jugement négatif sur soi-même. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des émotions. Et c'est ni bien ni mal d'avoir des émotions, c'est la vie en nous. Si on n'avait pas des émotions, on serait un robot, on serait un objet. Donc,
c'est normal d'être agacé.
Ah ben bien sûr, c'est normal d'être anxieux, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. Il faut juste les accueillir sans jugement. Donc ça, il faut déjà avoir de l'empathie pour soi-même. L'avoir de l'empathie pour soi-même, ça veut dire accepter que nous, humains, on est traversés en permanence par des émotions agréables. Les émotions agréables, ça veut dire que nos besoins les plus profonds sont satisfaits. Les émotions désagréables, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est angoissé, ça veut dire qu'on a des besoins très profonds en nous qui sont insatisfaits. Donc, accueillir nos émotions, ça veut dire, ça nous apprend à nous connaître, nous. Donc, c'est extrêmement important.
Et on verra dans la deuxième partie de cette émission, justement, comment gérer ces émotions. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 80 82 75 deux fois.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment mieux traiter les enfants, les rendre heureux, comment améliorer la relation parent-enfant avec le docteur Catherine Guéguen, qui est pédiatre à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Perret. Elle est spécialisée dans le soutien à la parentalité et elle vient de publier « Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau ». C'est un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 80 82 75 deux fois. Et nous avons au téléphone Ismahan Soukena Diop Barry, psychologue clinicienne à Conakry en Guinée. Ismahan Soukena Diop Barry, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. D'abord, quels sont les problèmes d'éducation auxquels les parents sont confrontés? De quoi se plaignent-ils finalement quand ils viennent vous consulter?
Eh bien, en fait, justement, je reçois des enfants en consultation assez couramment et la problématique en général est présentée par les parents. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les enfants montrent souvent une problématique différente de ce pour laquelle ils sont amenés.
Et en gros, justement, les parents se plaignent de quoi?
Eh bien, souvent, c'est des problèmes de comportement, sur le plan affectif, de maturité de la part de leur enfant. Ou alors, c'est des soucis pour les parents suite à des décès dans la famille, des problèmes familiaux généraux, de divorce, par exemple. Et ils sont inquiets de la réaction de leur enfant suite à cette situation.
Et
on peut voir, oui, en fait, en général, quand on reçoit des enfants, que les enfants montrent assez vite d'où vient le problème.
Et en général, justement, d'où vient le problème, finalement?
Eh bien, le problème peut venir de la relation que l'enfant entretient avec son parent, mais aussi peut aussi venir du parent lui-même, c'est-à-dire de l'histoire personnelle du parent, de la relation que le parent entretenait avec son propre parent dans le passé.
Oui, c'est ça, on est quand même bien marqué par notre éducation. Et du coup, qu'est-ce que vous arrivez à faire dans ce travail avec les enfants? Et peut-être avec les parents, d'ailleurs, aussi.
Eh bien, en fait, déjà, dès le départ, il s'agit de localiser la problématique, de comprendre le contexte. Et donc, peu de temps après avoir rencontré le parent, je vois l'enfant seul. Et j'essaie de comprendre d'où vient le problème du point de vue de l'enfant. Et l'enfant, en général, très rapidement montre exactement d'où vient la problématique, sous la forme d'un dessin, ou sous la forme d'une histoire, ou sous la forme de n'importe quel matériel qu'il peut vous apporter, qui explique et qui localise, en fait, l'origine du problème. Peu de temps après, je fais une espèce de petite enquête au niveau du parent pour essayer de comprendre quel est le problème que le langage de l'enfant montre et comment est-ce que le parent peut l'exprimer. Si la problématique est trop ancrée ou alors si le parent n'y a pas accès directement, qu'il ne s'en souvient pas ou que c'est une problématique qui est vraiment trop lointaine et qu'il n'est pas prêt à y accéder maintenant, souvent ça demande un petit travail pour essayer de revenir vers cette situation qui a causé le problème au départ. Il arrive que le parent soit réceptif et participe au travail et tout de suite essaie de se remettre en question pour comprendre ce souci-là. Par contre, quand le parent n'est pas du tout prêt à faire face à cette problématique et qu'on se heurte justement à la résistance du parent qui fait qu'il ne peut pas, il n'est pas disposé à revenir sur ce souci-là qui cause cette relation, ou alors qu'il ne reconnaît complètement pas l'effet de cet élément qui lui appartient sur son enfant, on est amené souvent à travailler seul avec l'enfant et à lui donner les moyens de développer la résistance nécessaire à pouvoir se construire cette personnalité stable, justement, sans avoir à compter sur un environnement qui puisse le faciliter.
Mais j'imagine que dans ces cas-là, c'est plus compliqué. Docteur Catherine Guéguen, je vous vois faire oui de la tête. Effectivement, ça arrive que des parents n'aient pas tellement, finalement, envie de remonter à leur enfance ou ne comprennent pas d'où vient le problème.
Ça arrive, surtout quand les parents vont vraiment mal et sont persuadés que eux font bien. Mais la majorité des parents, quand ils sont vraiment en confiance, ils perçoivent que en changeant d'attitude, en étant plus compréhensifs avec leur enfant, la situation va s'améliorer. Mais dans certaines situations dramatiques, le parent ne veut pas du tout réaliser que lui pourrait faire un travail personnel.
Mais ça remue beaucoup de choses pour les parents.
Pour les parents, ça peut être extrêmement bouleversant. La première chose, c'est de surtout ne pas reconnaître que l'éducation qu'on a reçue nous a fait souffrir. Parce que remettre en cause ses parents, c'était extrêmement douloureux. La plupart des parents, la première fois que je les reçois, ils me disent « Mais moi, j'ai eu l'éducation qu'il
fallait. » J'ai eu une enfance heureuse, tout va bien.
J'ai eu une enfance heureuse, tout va bien. Donc c'est extrêmement difficile de remettre en cause ses propres parents.
Ismaan Soukena Diop-Bari, et du coup, j'imagine, par rapport à ce que vous nous avez dit, vous êtes amenée à donner des conseils aux parents.
Eh bien, en fait, ça se présente pas sous la forme de conseils, ça se présente plutôt sous la forme de questions et qui devraient les pousser à se remettre naturellement en question eux-mêmes, en fait. Donc, on leur pose quelques questions pour essayer de les diriger sur des sujets qui ont pu être les sujets susceptibles des problèmes, problématiques en tout cas dans Romain.
Ouais. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail?
Eh bien, bien souvent, c'est la résistance du parent, comme disait justement le docteur Ken, en fait, par rapport à ce souvenir et à cette façon de juger ses parents ou de juger son enfance et de pouvoir avoir un regard extérieur sur une histoire profondément personnelle.
Est-ce que vous avez l'impression, là, en Guinée, qu'il y a une évolution dans la façon d'éduquer des enfants, avec peut-être en étant moins sévère?
Eh bien, je ne sais pas si on peut l'observer sur un aussi court terme, en fait. Ce qu'on remarque surtout dans le cadre de la pratique, c'est que maintenant, les parents élèvent leurs enfants seuls. Ce qui représente un changement énorme dans la dynamique familiale. Parce que...
Vous voulez dire qu'il n'y a plus les grands-parents, il n'y a plus les oncles et tantes, il n'y a plus tout le reste de la famille.
Et donc, les parents sont obligés de répondre sur plusieurs plans, où justement, eux, dans le passé, n'ont pas eu ce soutien de leurs parents sur plusieurs plans. C'est-à-dire que leurs parents les ont élevés par rapport à leur part de responsabilité et il y avait l'apport du reste de la famille qui pouvait combler les manques de l'éducation des parents. Et maintenant, les parents sont obligés de couvrir tous les rôles. Et donc, il y a dans la transmission certains manques qui font que les parents n'ont pas les réponses pour certaines problématiques face aux enfants.
Et vous voulez dire qu'ils ne savent pas faire, en fait ?
Excusez-moi.
Vous voulez dire qu'ils ne savent pas faire, du coup ? Ils n'ont pas eu de modèle.
Ils essayent de faire à leur façon. Ouais. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps sur les nombres d'enfants, c'est-à-dire que le premier enfant est élevé d'une manière un peu différente du second, parce qu'ils apprennent, et ça, c'est un petit peu partout, je pense.
Merci beaucoup, Ismaan Soukena Diop-Bari. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Conakry, en Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous essayons de voir comment améliorer les relations entre parents et enfants pour rendre les enfants plus heureux. On a Émile qui nous appelle de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Émile, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour également à tous vos invités.
On vous
bonjour.
Écoute, Émile.
Oui, je voudrais d'abord commencer par un petit témoignage avant de poser la question. En fait, moi, je suis né dans une famille de juristes. Vous savez, les juristes, ce sont des gens des lois. Mes parents étaient très sévères avec moi, surtout quand il s'agissait donc de répéter les leçons de l'école. Au chaque fois que je ne répétais pas bien, papa tonnait sur moi, maman également tonnait sur moi. On me donnait parfois des gifles, et finalement, j'avais peur de papa. Et à chaque fois que j'avais de communiquer peut-être de l'école, je ne pouvais pas les lui dire comme ça en face. À moins qu'il lui-même regarde dans mon journal de classe et retrouve cela. Alors, voilà, maintenant que j'ai quitté le parent, je suis en garderie quelque part. Je rencontre aussi les mêmes difficultés avec les enfants que je suis en garderie. Surtout si les enfants ne parviennent pas à faire mieux, c'est-à-dire être à la hauteur de mes attentes. Je tourne sur eux. Et le fait que je tombe sur eux a créé en eux un sentiment de peur. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils se retrouvent tous dans un coin. Alors, je vais poser un peu la question. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer la méthode d'éducation et permettre à ces enfants d'apprendre?
Émile, la ligne téléphonique, elle est pas très bonne. Ça bouge beaucoup. Il y a du bruit derrière. Mais juste une petite précision. Quand vous dites j'encadre des enfants, ça veut dire quoi? Vous faites quoi comme métier? Vous êtes enseignant ou quelque chose comme ça? Ou vous parlez de vos propres enfants?
Oui, je parle de mes petites sœurs.
Vous parlez de vos petites sœurs, d'accord. Et c'est dans ce cadre-là que vous encadrez des enfants. Et comment faire pour ne pas reproduire le schéma familial? Docteur Catherine Guéhen, voilà une question qui revient très souvent.
Oui, mais moi je pense qu'Émile pose la bonne question parce que déjà il a conscience que, en fait, quand il crie, quand il punit, bon d'abord il n'a pas envie de reproduire ça. Et il aurait envie de trouver un autre chemin. Donc je pense qu'il a déjà franchi la première étape, c'est d'avoir conscience qu'il pourrait faire autrement.
Alors après, on fait comment pour faire autrement? La deuxième étape, on a compris le problème, maintenant on fait quoi?
Après, il faut comprendre que l'enfant, lui, il n'a pas de trouble de comportement. Il ne le fait pas exprès de faire des colères, de pleurer, de crier. Par contre, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'il faut se faire aider par son entourage, c'est-à-dire que il faut trouver dans son entourage les personnes qui sont bienveillantes, qui ne crient pas et qui sont beaucoup plus douces. Si on est entouré que de gens qui crient et qui tapent, ça va nous conforter dans cette façon-là. Alors que si on est entouré de gens qui nous apportent de la douceur, de l'affection, on va soi-même s'adoucir. Donc il faut essayer, si possible, de fuir les personnes qui sont dures et rigides et autoritaires.
Vous dites aussi qu'il faut écouter son enfant, mais l'écouter réellement, ce qu'on fait pas forcément.
Ouais. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on analyse le temps d'écoute, généralement, c'est quelques secondes. Et au bout de quelques secondes...
On a autre chose à faire.
On l'interrompt, on lui donne des conseils, mais en fait, on ne l'écoute pas. Donc, si on s'écoute d'abord soi-même, c'est extrêmement important. Et ensuite, il faut réellement écouter son enfant. L'enfant, lui, il veut faire bien. C'est comme nous. Nous, on a envie de faire bien aussi. Donc, la première démarche, c'est écouter son enfant. Comprendre que lui ne veut pas être méchant, tyrannique. Il ne le fait pas exprès, il ne nous cherche pas.
C'est important. Hein. Émile, j'espère que ces conseils vont vous aider. Merci de nous avoir appelés. On a Moussa qui nous appelle de Ziguinchor au Sénégal. Moussa, bonjour. Moussa, vous êtes en direct dans Priorité Santé, on vous écoute.
Bonjour Claire.
Oui, on vous écoute Moussa.
Ok, je suis d'une société Diola au Sénégal. Et chez moi, tout le monde pense que j'ai reçu une très bonne éducation. Mais ce que personne ne sait, c'est que j'ai vécu dans toute mon enfance dans la peur. Je ne pouvais rien faire, rien, sans me demander si ça plairait à mon père. Je ne pouvais pas aller jouer avec les copains sans crainte de me faire gronder. Mon père, en fait, il exigeait de moi un tel respect que je n'osais pas le regarder quand je lui parlais. Il ne me battait pas souvent, mais il me menaçait et j'avais très peur de lui. Et quand il est arrivé de me battre, c'était vraiment sévère. Bon, maintenant que je suis grand, je suis à l'université. J'envie tous ceux qui peuvent discuter en riant avec ses parents, parce que moi, je ne peux pas le faire. Mes parents, on n'a pas cette familiarité qui voudrait que l'on s'appelle juste pour savoir comment chacun se porte. Mais bon, il reste clair que cette sévérité dans laquelle j'ai vécu n'avait pas que du négatif. Mon père, il m'a toujours obligé à ne m'occuper que de l'école. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a répondu, parce que je suis parmi les plus brillants de ma promo, et j'ai pas de problème dans les études. Dans les études, j'ai aucun problème, mais dans ma relation avec mes parents, ce n'est pas la familiarité que
famille devrait avoir. Et est-ce que ça vous gêne aussi dans la relation aux autres, pas simplement à vos parents, mais aux autres?
Non, avec les autres, ça ne me gêne pas souvent, parce que ils me demandent si je ne me sens pas plus à l'aise avec mes amis d'université qu'avec mes parents. Quand je suis à la maison, quand ils sont là, je ne suis pas très en forme. Mais quand mon papa sort et je suis à la maison, je me sens bien.
Oui, c'est ça. Du coup, vous n'êtes pas très à l'aise avec vos parents. Je ne sais pas si vous avez envie de donner comme conseil à Moussa, docteur Catherine Guéhen. Est-ce que essayer d'en parler avec ses parents, c'est une bonne idée ou c'est quelque chose d'un peu compliqué?
Tout dépend quelle est la relation avec ses parents. Je vois des jeunes parents qui ont eu des parents extrêmement durs, très sévères, très autoritaires et qui... eux, en se rendant compte qu'ils peuvent aussi avoir un autre regard sur leurs parents, comprendre pourquoi ils ont été comme ça, arrivent à être beaucoup plus même affectueux avec eux. Bon, et puis je vois aussi l'inverse, je vois des jeunes parents qui ont eu des parents tellement durs qu'eux, ils les fuient. Donc, je crois qu'il n'y a pas de recette. Je crois qu'on fait comme on peut. Et ce qui est extrêmement important, c'est que quand on a subi beaucoup de violence dans sa propre famille, on peut toujours se remettre de ses blessures de son enfance. Ça s'appelle la résilience. Et les études sur la résilience montrent qu'est-ce qui nous permet de corriger cicatriser ces blessures. C'est d'abord de rencontrer sur son chemin des personnes bienveillantes. Donc ça, c'est extrêmement important, hein. Et c'est-à-dire que dès que on va vers des gens qui nous apportent de l'affection, qui nous comprennent, eh bien, ça nous guérit, nous, de notre enfance qui a été violente. Donc ça, c'est le principal chemin à parcourir.
Docteur Catherine Guéguen, vous êtes pédiatre à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Perret. Vous êtes spécialisée dans le soutien à la parentalité. Quels sont les conseils, finalement, de base que vous auriez envie de donner?
Alors, premier conseil, c'est comprendre que le petit enfant est extrêmement fragile, très vulnérable. Il a un cerveau très immature et qu'il ne le fait pas exprès d'exprimer ses colères, ses tristesses, ses angoisses. Donc la première chose, c'est de comprendre son enfant. Une fois qu'on l'a compris, c'est accueillir justement ses émotions, les écouter. Et quand l'enfant est en colère, au lieu de lui dire « arrête tes caprices », lui dire « ben oui, je comprends que tu es en colère ». Et ensuite, essayer de l'apaiser au lieu de le punir ou de le menacer. Et l'apaiser, ça veut dire quoi? Si l'enfant est approchable, eh bien, on le câline. Ça veut pas dire céder. Mais l'apaiser, c'est extrêmement important et c'est ça qui va permettre au cerveau de bien se développer. Donc, c'est pas être laxiste, c'est apaiser les tristesses de son enfant, les peurs de son enfant, les angoisses de son enfant, les colères de son enfant. Et ensuite, dès qu'on fait ça, l'enfant va pouvoir lui-même gérer ses propres émotions. Il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. Hein, pour que le cerveau mature réellement, il faut à peu près 4, 5 à 6 ans. Donc, c'est la petite enfance qui est la plus compliquée pour les parents. Et c'est durant la petite enfance que les parents pètent les plombs. C'est-à-dire, crient, tapent leur enfant. Donc, c'est pendant la petite enfance qu'il faut se faire aider. Et quand, pendant la petite enfance, on a apaisé son enfant, je peux vous dire qu'après, c'est tout bénéfice pour le parent, parce qu'il a un enfant qui va bien, qui est heureux, qui sait exprimer ses émotions. Et un enfant qui sait exprimer ses émotions, c'est beaucoup plus facile de l'éduquer, parce que lui, il va savoir ce qu'il veut.
Donc, comprendre les émotions de son enfant, mais chercher aussi à comprendre les siennes.
Ah, tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que le parent puisse dire que oui, éduquer un enfant, c'est extrêmement difficile. Et il faut se faire entraider. Ça, c'est extrêmement important.
Se faire entraider, pas forcément par des professionnels, ça peut être dans le réseau amical.
Dans le réseau familial, amical. On va voir des professionnels si vraiment on est en détresse, on est en souffrance. Mais sinon, sa famille, ses amis, oui, c'est extrêmement important. Parler, ne pas avoir honte que de dire que oui, éduquer un enfant, c'est difficile.
Vous avez l'impression que vous avez de plus en plus de parents qui viennent consulter, qui se disent « je voudrais faire différemment ».
Et ils viennent d'abord pour dire qu'ils trouvent que leur enfant est infernal et insupportable. Ils viennent parce que leur enfant est agressif, parce que leur enfant n'obéit pas. Non, ils viennent pas pour changer d'éducation. Ils viennent d'abord pour se plaindre que leur enfant ne va pas bien. Et puis, c'est au cours des échanges qu'ils se rendent compte que oui, ils pourraient peut-être faire autrement.
Merci beaucoup, hein, docteur Catherine Guéguen. Je rappelle que vous avez publié pour une enfance heureuse, hein, Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. C'est un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous expliquez vraiment qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi c'est si important d'établir une bonne relation avec son enfant, comment ça lui permet de se développer et d'ailleurs tout simplement de mieux apprendre et de mieux réussir à l'école.
Oui, tout
c'est bien
fait.
Ça l'idée.
Oui, absolument.
Et on va terminer en parlant d'un hôpital au Lesotho. Et pour terminer, je vous propose de parler d'un rapport de l'ONG Oxfam sur un nouvel hôpital au Lesotho, hôpital conçu et exploité sur un modèle de partenariat public-privé. Samira Daoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice régionale de la campagne sur les inégalités et les services essentiels pour l'Afrique de l'Ouest d'Oxfam. Le Lesotho est un petit pays montagneux, enclavé dans l'Afrique du Sud. Alors d'abord, en quoi consiste ce partenariat public-privé de cet hôpital au Lesotho ?
Alors en fait, c'est un partenariat qui est assez unique en son genre en Afrique et en particulier dans parmi les pays à bas revenus, où l'ensemble des équipements ont été conçus, construits, financés et gérés par un consortium privé, englobant y compris les services cliniques. Donc c'est un partenariat entre un consortium privé piloté par une société sud-africaine et l'État du Lesotho, avec l'appui de la Société financière internationale qui appartient à la Banque mondiale.
Cet hôpital a été lancé comme un grand projet d'avenir, une solution finalement au manque de moyens financiers des États. Ça s'avère pas si concluant que ça. D'abord, combien coûte ce PPP, ce qu'on appelle ce partenariat public-privé, à l'État du Lesotho ?
Alors effectivement, ce partenariat public-privé devait proposer des services de santé de grande qualité, très performants et pour le même coût annuel que l'ancien hôpital public, parce que ce nouvel hôpital remplace l'ancien hôpital public principal du Lesotho dans la capitale. Or, évidemment, il apparaît après quelques années de fonctionnement que les résultats ne sont pas du tout ceux qui étaient escomptés. D'abord, cet hôpital coûte au moins le triple de ce qu'aurait coûté l'ancien hôpital public aujourd'hui. Et surtout, il engloutit aujourd'hui plus de la moitié, 51% exactement, du budget de la santé du gouvernement, ce qui est absolument gigantesque, sachant que ces coûts risquent d'augmenter encore, c'est ce qui est prévu dans les prochaines années, et que dans le même temps, évidemment, les services de soins de santé en milieu rural, où vivent 75% de la population du Lesotho, voient leur budget diminuer.
Pourquoi ce projet coûte-t-il aussi cher ? Je dirais, qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Mais beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'on a sous-estimé le nombre de patients qui allaient se rendre à cet hôpital. Mais je dirais que ce n'est pas la raison principale, parce que même lorsqu'on enlève le surcoût que représente le nombre supplémentaire, si vous voulez, de patients par rapport à ce qui était prévu, on est toujours à au moins le double, le coût reste le double de ce qu'il aurait coûté dans le cadre de l'ancien hôpital public. Le fait aussi que il y a un taux de rendement sur capitaux propres qui est versé aux actionnaires qui est extrêmement important, qui est de 25%. Donc ça, dès le départ, je pense que c'était un élément de base qui ne pouvait que
ça pouvait pas fonctionner.
La situation difficile. L'autre chose, c'est que le gouvernement du Lesotho, dans le cadre de ce partenariat, est dans une situation un peu fragile face à une grosse entreprise privée. Et donc, de nombreux coûts additionnels se sont ajoutés au fur et à mesure du fonctionnement de l'hôpital, sans que le gouvernement puisse véritablement s'y opposer, et qui ont été évidemment imputés au gouvernement. Le consortium a imposé au nouveau gouvernement, un certain nombre de coûts qui n'étaient pas prévus contractuellement et que le gouvernement a été obligé d'honorer. Aussi le fait que ces coûts n'étant pas prévus, le gouvernement s'est retrouvé dans une situation de difficulté de paiement. Et alors là, en revanche, le contrat s'est bien appliqué et le gouvernement a dû payer des pénalités de retard de paiement. Enfin bref, c'est toute une série de dysfonctionnements. Mais je pense qu'à la base, la vraie question que nous posons dans notre rapport, c'est le rôle et la responsabilité de la Société financière internationale qui a poussé, encouragé, piloté la signature de ce contrat qui ne pouvait pas fonctionner, et ne pouvait pas donner autre chose que ce qui se produit aujourd'hui et qui est extrêmement, extrêmement difficile.
J'ai encore deux questions à vous poser. Vous alertez dans ce rapport Oxfam parce que vous êtes inquiet du coup sur l'impact de ce partenariat public-privé finalement sur la santé ou les autos.
Exactement, parce que quand vous avez la moitié du budget national de la santé, ce qui est quand même gigantesque, qui est consacré au fonctionnement d'un hôpital, qui est l'hôpital de la capitale, 75% de la population vit en dehors de la capitale. Donc ça veut dire que les ressources déjà maigres sont déviées des services de soins de santé en milieu rural où vit la majorité de la population, et donc il y a un impact en termes de on a observé une hausse des taux de mortalité en milieu rural par exemple, par parce qu'évidemment, puisqu'il y a moins d'argent dans ces structures, que tout le monde ne peut pas aller dans cet hôpital qui se trouve dans la capitale, et donc il y a nécessairement un impact.
Il va y avoir une dégradation de la santé. Et du coup, vos recommandations, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Sortir de ce partenariat public-privé?
Alors, si c'est possible, clairement, mais avant ça, situer les responsabilités. C'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête véritable qui soit menée sur le rôle de la Société financière internationale, qui, je le rappelle, a utilisé cet exemple dans de très nombreux pays pour comme une sorte de succès en termes de partenariat public-privé en matière de santé, qui continue à avoir cette activité de conseil en matière de santé dans de nombreux pays et qui encourage des pays comme le Bénin et le Nigeria, par exemple, à développer le même type de partenariat. Donc je pense que c'est important de situer la responsabilité de la société financière. Je pense qu'elle doit aussi cesser toute activité de conseil. Je pense que les mauvais conseils qui ont été donnés au gouvernement qui aujourd'hui se retrouvent, vous imaginez, aujourd'hui le gouvernement du Lesotho envisage de construire un nouvel hôpital pour pouvoir accueillir les patients. Ils préfèrent construire un nouvel hôpital plutôt que de continuer à payer le partenaire privé malgré l'investissement gigantesque qui a été fait de la part de
ça prouve bien que ça marche pas.
L'autre chose, je pense, qui est très importante et ce sur quoi on aimerait alerter, c'est ce discours très répandu selon lequel le recours au secteur privé serait la solution aux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les États en matière de fourniture de services publics, qu'il s'agisse de l'éducation ou de la santé. Je pense qu'il est absolument indispensable de tirer les leçons des expériences connues en matière de, notamment, de partenariat public-privé en santé. Il y a de très très nombreuses analyses qui existent sur ce type de partenariat déjà dans les pays du Nord.
Tout à fait. Merci beaucoup, Samira Daoud. Je signalerai juste d'ailleurs que la France vient de sortir du partenariat public-privé de l'hôpital sud-francilien dans le sud de Paris, justement parce que c'était vraiment trop compliqué, ça coûtait trop cher et donc l'État français est sorti de ce PPP. Merci beaucoup, à demain.